Cascodeur Podcast, épisode 308. Après, c'est avant. Enregistré le 15 mars 2024.
Soutenez les Cascodeurs en allant sur patreon.com/lescascodeurs. Merci de votre soutien. Bonjour et bienvenue dans les Cascodeurs. Nous sommes le 15 mars 2024 et ça sera l'épisode 308 si tout va bien. Je suis accompagné de Katia et de Guillaume.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va bien?
Moi j'ai une sciatique à décorner les bœufs là, donc.
Ah, c'est sciatique.
C'est sciatique. Ouais. Et surtout que c'est genre, je peux pas vraiment rester allongé. Donc, c'est pas genre, repose-toi. Bah ouais, mais je suis obligé d'être debout, quoi.
En fait, non.
Donc,
c'est pas pratique.
Non, le sommeil en mode, je suis sur un bateau en course à faire des micro-sommeils de 20 minutes avant de te faire réveiller de douleur. Il y a mieux.
Super.
Ça va, et j'ai envie de dire que celui-là, c'est l'épisode 308, et que le prochain, ça sera des news, probablement les 310, parce que les 309, il y a une surprise d'interview qui va arriver, qui se prépare, il est dans le four, je ne vais pas dévoiler, mais c'est bien sur un sujet qu'on maîtrise beaucoup, beaucoup, les cascodeurs, les fronts, quelque chose sur les fronts, donc préparez-vous pour l'interview qui arrive dans l'épisode 309 après celui-là.
J'ai cru que tu allais dire le sujet dans lequel on s'y connaît, le pipotage.
C'est sur le front de neige. C'est fini, là, la saison commence à être bien avancée. Alors, bon, on arrête on a un épisode à faire, mais avant, en fait, merci à tous ceux qui ont répondu au sondage, qui était sur lescascodeurs.com/sondage, j'imagine. Et du coup, on a eu un certain nombre de réponses et il y a un truc qu'on a proposé qui a l'air d'avoir pas mal plu, c'est de dire, vous posez une question et nous, on y répond avec soit du pipotage, comme dit Guillaume, soit avec notre expérience. Voilà. Alors, on va peut-être pas forcément prendre toutes les questions parce que si vraiment on n'est pas compétent, voilà, c'est ça. Mais ça nous paraît une super idée. Et du coup, soit vous la faites en crowdcast et vous allez sur lescascodeurs.com/crowdcast. Là, vous enregistrez votre question et puis on peut y répondre. Mais sinon, on va vous mettre un petit formulaire pour simplifier un peu les choses. Donc, on va faire lescascodeurs.com/AMA, comme Ask Me Anything. Et derrière, il y aura un petit formulaire avec Google Form probablement qui va dire qui êtes-vous si vous voulez dire qui vous êtes. Et puis, la question que vous avez, et puis nous, on en piquera une ou deux, enfin, on verra un peu comment le format, là, c'est, on explore, donc ça va peut-être changer, ça va peut-être faire un flop, ça va peut-être faire un truc super. On voit, il y a certains podcasts qui ont carrément des épisodes entiers où ils répondent aux auditeurs, donc ça peut être, on verra un petit peu comment ça passe, si c'est très populaire, on pourra faire ce genre de choses. Voilà. Vous voulez rajouter des choses? Non, je crois que j'ai couvert à peu près.
À vos questions,
oui. C'est ça.
On est motivés.
Voilà. Ouais, on est motivés. Alors, allez, on se lance à l'épisode en tant que tel. On va commencer par les nouvelles. Et d'abord sur les langages. Vous savez, on part du bas de la couche et on monte. Et puis après, on s'éloigne un peu du dev. Le premier, c'est sur un retour d'expérience de Netflix. D'ailleurs, on a deux retours d'expérience de Netflix dans cet épisode. Et donc le premier, c'est sur leur usage de ZGC. Donc ce retour d'expérience, il arrive après le premier retour d'expérience dont on parlera après. Bref, je vous laisserai remettre dans l'ordre. Mais c'était assez intéressant. Netflix, donc vous le verrez après, mais pendant longtemps, ils étaient sur du Java 8. Ensuite, ils sont passés sur Java 17, sur lequel ils ont utilisé G1 sur un certain nombre de leurs services, donc le Garbage Collector G1. Et puis là, ils utilisent ZGC, chez Shenandoah dans un cas particulier, mais sinon ZGC. Et ils sont super contents de l'expérience qu'ils ont. Je crois que c'est Java 21, si je me trompe pas, je me rappelle plus dans le détail. Mais en tout cas, ce qu'ils ont vu, c'est que ça faisait moins de latence. Alors vous savez, les latences, on parle pas de la latence moyenne, enfin on peut en parler, mais on parle de la latence à 90, au 9 déciles, au 99e centile, etc. Donc à à 90-99%, etc., pour voir bah, si à 99%, vous avez un temps de latence de 10 secondes parce qu'il y a un truc qui est lent, bah, ça veut dire que sur une requête sur 100, il y a quelqu'un qui attend 10 secondes. Donc, c'est peut-être beaucoup, surtout si vous avez un service qui fait plein de requêtes pour afficher une page, par exemple. Et donc, Netflix, la latence, c'est un truc qui est important pour eux, hein, pour afficher les pages rapidement, mais aussi publier les vidéos. Vous n'avez pas envie de voir la petite roue qui tourne. Donc.
Ah bah moi, j'aime bien la roue, mais.
Ouais, t'aimes bien la roue, je la regarde. Attends, avant,
j'aime bien quand c'est lent. J'aime bien quand c'est lent. Non, évidemment, ils ont des besoins qu'on ne peut même pas imaginer. Les commandes mortelles, la plupart.
Ouais, après, on l'a tous un petit peu parce que les gens ne sont jamais vraiment contents. Ils se résignent, mais ils ne sont jamais vraiment contents d'avoir un truc où il y a beaucoup d'attentes. Mais en tout cas, ils ont donc la latence, la queue de la latence qui a beaucoup réduit. Ça veut dire que du coup, il y a moins de charges sur le système, paradoxalement, parce qu'il y a moins de retry. En fait, Netflix, ils font ce qu'ils appellent du fan-out. Donc, ils reçoivent une requête et ils vont l'envoyer à un service. Mais si ce service ne répond pas dans les X millisecondes, ils vont l'envoyer à un deuxième service. Donc, ça fait sur une autre machine. Enfin, le même service, mais sur une autre machine. Du coup, ça fait une charge supplémentaire globale sur le système. Donc, ils ont gagné en consommation CPU, paradoxalement, avec moins de retry. Et puis surtout, comme ils ont moins de problèmes de latence du garbage collector en tant que tel, grâce aux approches de ZGC, qui est devenu générationnel là, il y a pas si longtemps que ça, et ben ce qui se passe, enfin j'espère que j'ai pas dit une bêtise là, Rémi nous corrigera. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont, attendez, je suis un peu perdu. Ah oui, du coup, ils voient les vrais problèmes de latence qui viennent de leur code plutôt que du garbage collector. Et du coup, ils ont pu être plus efficaces sur trouver les problèmes et avancer là-dessus. Et en gros, à consommation inférieure ou égale en termes de CPU, ils ont les mêmes perfs, malgré le fait que ZGC, techniquement, par rapport à G1, a plus de barrières et du coup de synchronisation mémoire globale ou par zone. Et du coup, ils sont assez contents, surtout qu'ils n'ont pas fait de tuning explicite. En fait, souvent, les garbage collectors, il faut pas mal les tuner. Et là, ZGC, en tout cas, ils notaient qu'ils n'ont pas fait de tuning explicite. Et il y a un truc aussi où alors ZGC, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font du... Ils utilisent une approche qui s'appelle de colorier les pointeurs. Donc, ils rajoutent dans le pointeur une information sur, j'imagine, est-ce qu'il est pointé, est-ce qu'il est plus pointé en fonction des passages, dans le pointeur lui-même. Et ça veut dire que les pointeurs compressés, vous savez, quand vous avez votre machine virtuelle qui est inférieure à, je crois, 64 gigas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des pointeurs de 64 bits, mais vous pouvez utiliser des pointeurs de 32 bits. La JVM le fait pour vous. Ben là, comme on a besoin de rajouter la couleur dans le pointeur lui-même, et ben là, ils sont obligés d'utiliser 64 bits. Mais en pratique, même si chaque pointeur est deux fois plus gros, ils n'ont pas trouvé de surconsommation mémoire parce que le garbage collector est plus efficace et donc il compense plutôt bien. Donc voilà, c'est plutôt un retour d'expérience vraiment positif de Netflix là-dessus. Donc si vous avez des besoins qui sont... où vous dites, tiens, sur telle appli, j'aimerais bien expérimenter parce que j'ai tel problème, ben, c'est un retour plutôt intéressant. Voilà, on va passer aux librairies, aux bibliothèques avec Spock.
Il y a la version Spock 2.4-M2 qui est sortie. Je crois que ça faisait un petit moment qu'ils avaient...
M2, c'est pour les Apple...
Ouais, non, même pas.
Milestone 2.
Non, ce serait M3, du coup, vu qu'il y a les M3 maintenant. Non, ouais, c'est une Milestone, donc ça faisait un petit moment, je crois qu'ils n'avaient pas fait de release. Donc là, en particulier, il y avait... alors, je sais plus lesquels étaient supportés ou pas avant, mais donc il y a plusieurs améliorations ou nouveaux supports, en tout cas, de plusieurs librairies de mock. Donc on peut faire... enfin, on peut utiliser Mockito, on peut utiliser, je sais qu'il y avait les mocks, enfin, avec des Java proxy. Attends, où est-ce que j'avais vu ça?
Il y
avait
justement Mockito, si c'était pas supporté avant, je crois.
Non, c'était Mockito qui n'était pas supporté avant. CGlib et attends, je recherche dans la doc, je les vois plus. Et il devait y avoir ByteBuddy aussi, je crois. Donc voilà, meilleur support en tout cas pour faire des mocks. Meilleur support dans les IDE, parce que c'est vrai que c'est une syntaxe un petit, donc c'est du Groovy, hein, la syntaxe de Spock, mais ça utilise, on va dire, la syntaxe de Groovy dans une façon, enfin, d'une manière assez créative, et donc faut que les IDE comprennent cette syntaxe un peu particulière. Donc, par exemple, les tests avec des data tables, qui est super sympa à utiliser quand on veut tester pour plusieurs valeurs. Et puis voilà, plein d'autres petites améliorations. En tout cas, c'était surtout voilà, ces deux trucs-là que je retenais en particulier pour les mocks et meilleur support dans les IDE. Voilà.
Cool. Et puis, on aurait presque pu le mettre dans le web, mais je l'ai mis dans les librairies. jQuery 4 est sorti. Alors, jQuery, ouais. Ça date. Hein.
C'est fou, c'est vieux. Hein. Ouais. Du coup, je ne sais plus s'ils avaient mis...
je ne sais même pas s'il y avait Internet à l'époque.
C'est inventé. Ben, mais du coup, ouais, il y a une nouvelle release. Et c'est marrant.
Attention, parce que... Internet Explorer strictement inférieur à 11 n'est plus supporté.
Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, j'espère qu'il en reste plus beaucoup quand même des Internet Explorer depuis le temps, mais bon.
Et en fait, t'entends 3-4 personnes qui pleurent là dans le podcast.
Et bah, remarque, là, j'étais à un meet-up à Nice et je discutais avec un des attendees. Alors c'était pas du JavaScript, mais qui me parlait d'un framework qu'il utilisait, et ils sont genre 3 ou 4 versions derrière la version majeure actuelle du framework, et ils pleuraient. C'était assez rigolo. Bref, donc jQuery 4, c'est quand même leur première release majeure depuis 8 ans. Ils montraient aussi, je crois que c'était sur cet article-là, le lien qu'on a mis, que c'était de plus en plus téléchargé, malgré tout, continuellement. Et en fait, c'est aussi beaucoup utilisé, et ça continue d'être utilisé dans les projets comme Cypress, WordPress ou Drupal, qui, eux, continuent également à avoir du succès. Donc, c'est peut-être... on va dire un succès transitif, dans le sens où il tire jQuery, et du coup il continue d'être pas mal utilisé. Mais voilà, donc c'est la première fois aussi, je pense, à moins qu'il l'ait fait dans d'autres releases, je dis peut-être des bêtises, mais qu'ils enlèvent aussi des fonctionnalités qui étaient deprecated, donc ils essaient de l'alléger. Donc voilà, jQuery, toujours d'actualité.
Ouais, et puis t'as un peu ce mouvement du no framework, un peu, qui revient, ouais. Qui s'appuie sur... Enfin, souvent, il y a quand même jQuery un peu derrière pour aller simplifier. Après, ils expliquaient qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été...
Ouais, ils ont enlevé certaines
parties. Par défaut, maintenant, dans les
navigateurs. Qui sont maintenant, voilà, dans les moteurs JavaScript. Donc, il n'y a plus besoin de réinventer la roue à l'intérieur du framework, quoi.
C'est ça.
Mais c'est vrai que, je ne sais pas, pour vous, moi, si c'est quelque chose de simple, maintenant, je fais du Vanilla JS. Ou si je fais un truc un peu plus compliqué, je fais du Vue.js.
Tu ne fais pas du nature, alors.
Ouais. Mais du coup, c'est vrai que alors c'était sympa, par exemple la notation $ pour jQuery pour trouver les éléments, mais bon, voilà, un document.querySelector, ça tue personne non plus en JavaScript pur sucre, quoi.
Ouais.
Voilà. Comme ça, on a parlé de front, hein, vous avez vu.
On a parlé de front, ouais.
Super moderne.
Ouais. Sinon, Quarkus sort la 3.8 et
non, on part au back-end direct. Là,
on va au back-end. Ouais.
On dit OK, la partie front c'est fait.
C'est bon.
Allez, c'est plié. Quarkus.
Vous allez voir les conversations. Elles sont. Il est moins technique que d'habitude. L'épisode. Il y a beaucoup de news un peu plus générales que le corps du dev cette semaine, enfin ce mois-ci. En tout cas, Quarkus sort la 3.8 et ce qui est intéressant, c'est que c'est la deuxième long-term support. Donc, il y avait la 3.2 qui était en long-term support, sachant que les points quelque chose, il y en a à peu près tous les mois, 5 semaines. Donc, tous les 4-5 semaines. Donc, on a eu la 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Et évidemment, maintenant, il y a la 3.8 qui est la deuxième long-term support. Donc, c'est... moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ça pérennise. On voit que maintenant, ça se met en place. Et du coup, dans le blog, Guillaume a fait un truc plutôt sympa. Donc, il dit, si vous venez de la 3.7, vous n'aurez pas de problème à aller direct sur la 3.8. Si vous venez de la 3.2, voilà les changements essentiels qu'on a fait. Parce qu'évidemment, l'update est plus long quand vous mettez à jour plus lentement. C'est un peu l'exemple que tu donnais, Guillaume, avec... quelqu'un qui disait qu'il était à 4 versions derrière le framework et ça pique après.
En même temps, ça dure combien cette LTS?
Ah, c'était
prévu pour combien de temps le long-term support, la 3.8?
Très bonne question. Jusqu'à celle d'après, je crois.
C'est 12 mois. Enfin, dans le blog, c'est la deuxième phrase. Hein. Il y a écrit 12 mois.
12 mois.
Ah oui, d'accord. Okay, ah non.
C'est pas moi qui bosse chez Red Hat. Hein.
Ouais. On a le droit de poser une question naïve, je ne l'avais pas bien lu.
Pour le faire sortir, c'est bon.
Et quand tu as dit Guillaume, c'était un autre Guillaume, c'était pas moi tout à l'heure.
Oui,
oui, voilà, c'était pas toi, non. C'était Guillaume Esmet qui fait un travail formidable à Quarkus et qu'il est le lead de toute cette partie-là. Et franchement, heureusement qu'il est là aussi. Mm. Il est très, très, très fort. Donc, oui, c'est cette release-là qui va être donc en voilà, long-term support pour un an, quoi. À peu près.
Ouais. Alors, on va passer maintenant à l'infrastructure. Et Linkerd, ça fait partie des outils de service mesh. Donc, il y a Envoy avec Istio, qu'on connaît pas mal. Linkerd, qui était là, je pense, avant, qui est celui qui est sorti de chez... une des grosses boîtes techniques. C'est pas Netflix, mais c'est un truc un peu comme ça. Bref. Enfin, il y a une boîte qui s'est créée, une startup qui s'est créée pour faire le développement et le support de Linkerd. Et la boîte, du coup, les committeurs primaires de ce projet ont décidé de faire payer maintenant pour accéder au build stable du projet. C'est-à-dire que ils vont avoir un main à peu près evergreen, mais ils garantissent pas qu'il y ait pas des petites régressions entre chaque commit de temps en temps. Et par contre, les versions qu'ils vont considérer comme stables, il faudra, si je crois qu'on est une boîte de plus de 50 employés, payer à peu près $2,000 par cluster Kubernetes. Voilà. Donc ça fait un peu des remous parce que, mais c'est open source, c'est gratuit, c'est quoi ce bordel? Etc., etc. Surtout que c'est un projet de la Cloud Native Computing Foundation. Alors eux, leur objectif, c'est que Linkerd, ça se déploie plus simplement que Envoy. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, depuis Envoy, je pense qu'il y a un peu plus de compétition. On a vu même avec ce que c'était WeaveWork, qui est une boîte qui supportait Flux. Qui a fermé les portes. Donc, on voit que les startups qui ont démarré là, dans les années 2010, quelque chose, là, ils sont un peu au bout de leur route et ils n'ont pas réussi, certaines n'ont pas réussi à passer à la vitesse supérieure. Et donc, la boîte qui s'appelle Buoyant, qui est le principal contributeur derrière, ont décidé de faire ça. Donc, ça a effectivement créé des conversations. Des gens qui se sentent floués, genre ben attends, moi j'utilisais ce projet, j'ai participé au succès et là d'un coup maintenant faut que je paye pour avoir les versions stables. Après, la licence ne change pas, hein, on parle pas de, enfin, je pense que les gens étaient un peu traumatisés par Terraform qui est passé en licence non open, mais là la licence reste ASL, c'est juste que c'est à toi de construire un peu à partir des sources, un peu comme finalement Red Hat a fait avec RHEL en fermant l'accès au source code et en fermant CentOS. C'est-à-dire que c'est open source, mais il y a un upstream et c'est à toi de trouver les bons commits qui vont bien. Voilà, et du coup, ça a ouvert des questions sur la CNCF au niveau de la gouvernance parce que c'était pas ni autorisé ni interdit ce genre de choses. Donc, ils vont peut-être rajouter des critères de graduation pour les projets parce que Linkerd, c'est un projet qui est gradué. Le dernier point que je voulais dire, c'est que dans la licence open source, on te dit, t'as accès au code et si, en fait, quand tu as le logiciel, tu as aussi accès au code. Mais ça te dit pas qu'on te doit de distribuer, enfin, de distribuer librement le binaire, quoi. Celle d'après, c'est Cloudflare. Je sais pas si vous l'avez lu, Cloudflare qui réécrit un proxy en Rust. Et donc, pendant longtemps, ils ont utilisé Nginx.
Tu dis Nginx, toi?
Comment tu dis, toi?
C'est Nginx.
Nginx, pardon. Ouais,
t'as raison. Je sais pas si c'est ça, mais j'ai toujours dit comme ça.
Non, mais t'as raison. En tout cas, je crois que les gens qui l'utilisent tous les jours, ils disent ça.
Ouais. Okay.
Nginx.
Il y a des gens qui n'ont dit rien du tout, en fait. On n'utilise même pas. Je ne cite même pas.
J'étais un peu coincé sur le ng.
Ng.
Voilà. Et donc, ça marchait bien pendant très longtemps pour eux. Mais bon, Cloudflare, ils ont un volume, évidemment, leur métier, c'est proxy. Leur métier, c'est proxy, quoi. Du coup, ils sont arrivés un peu à des limites et des complexités, surtout qu'ils rajoutaient certaines optimes ou certaines variations sur Nginx. Et du coup, backporter régulièrement au fur et à mesure que l'upstream avançait, c'était pas facile. Et je sais pas pourquoi ils contribuaient pas leur patch, ou alors leur patch était refusé, donc c'était de plus en plus compliqué.
Il me semble qu'il y a aussi quand même une histoire avec Nginx depuis que c'est repris par, c'est qui, c'est F5, non? F5? Ah, et il y a un free Nginx qui est fait par certains des contributeurs à Nginx, donc il y a peut-être aussi des raisons autres qui les ont peut-être guidés à ça et qui sont pas complètes. Ouais, à voir, je sais pas. Ouais.
Ils n'en ont pas parlé en tout cas dans le blog.
Non, pas dans le blog.
Après, il y a un modèle un single worker model. Donc, il y a un process qui processe les opérations. Et si vous en voulez plusieurs, vous démarrez un deuxième Nginx, en fait. Voilà, donc, ça permet, permettait pas certaines optimisations, notamment de passer en fait, une fois qu'une requête est reçue par un process, tu peux pas la passer à un autre parce qu'il est moins utilisé, par exemple. Donc ça, c'était une des petites limitations. Et puis après, ils ont plein de besoins spécifiques qui supportent l'aspect de manière très large parce que ils sont obligés de supporter toutes les façons dont les serveurs envoient le HTML pas trop compliant, et pareil pour les clients. Donc bref, ils ont réécrit un truc multithreadé avec du work stealing en Rust, et ils sont contents et ils appellent ça Pingora. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on veut réécrire qu'on a ce besoin là, mais voilà, c'est un retour d'expérience un petit peu intéressant. Ensuite, il y a le guide du gars qui déteste Kubernetes.
Alors, c'est un gars qui se plaint souvent de Kubernetes aussi sur Twitter et ailleurs, parce que je pense qu'on peut tous reconnaître que Kubernetes est quand même assez compliqué, un écosystème très très riche, et des fois on se demande si...
C'est compliqué ou c'est complexe? C'est pas la même chose.
Mais je pense que c'est quand même les deux. Après, je suis pas un expert dans le sujet, donc...
Je pense on dirait que les deux sont, mais je pense qu'il y a quand même aussi le coût d'entrée, c'est pour faire certaines choses, ça peut être pas complexe, en fait, pour faire des trucs simples, mais j'ai l'impression aussi que quand on utilise Kube, c'est pas pour faire des trucs simples en soi, en fait, qu'on l'a
normalement, mais après, des fois, c'est utilisé, tu sais, un peu comme un marteau, j'ai mon marteau, même si j'ai pas grand chose à...
Ouais, mais il y a un effet standardisation aussi, tu vois. Ouais. Tu utilises pour un truc qui a besoin de beaucoup de variabilité, mais allez, on va réutiliser la même infra, on va pas se mettre à...
Ouais, mais AWS,
je sais pas quoi.
C'est juste pour mettre le formulaire des cascodeurs, je pense pas que tu vas quand même faire un cluster Kubernetes, quoi, par exemple, tu vois.
Non, mais tu vas faire...
on arrête les provisionnings, du coup,
ouais,
Manu.
J'avais
tout mes jamais le préparé, en fait, je comprends pas.
Et il disait que c'est de la super technologie, hein, il y a pas de doute là-dessus. Hein. Donc c'est top dès qu'on veut exécuter plusieurs serveurs, plusieurs tâches, plusieurs processus, etc. Qu'on veut exécuter toutes ces tâches de manière en parallèle, concurrente, redondante, équilibrer la charge, tout ce qui est configuration, etc. Entre les relations entre les services, on peut faire du Ascode, là, du
infrastructure Ascode,
ouais. Etc. Donc tout ça c'est bien, il y a pas de souci. Mais lui après il dit dans son article, il classe un petit peu en trois catégories ce qu'on peut utiliser, enfin ce pourquoi c'est bien d'utiliser Kubernetes, les trucs qu'on peut faire mais attention parce que ça rajoute quand même pas mal de complexité. Et après, les choses qu'on devrait éviter. Donc, dans ce qui est bien et pour lesquels c'est une bonne idée d'utiliser Kubernetes, ou en tout cas, ce dont on devrait...
La partie qu'on veut utiliser Kubernetes de good parts.
De good parts, voilà, c'est un peu ça. Donc, tout ce qui est deployment, service, les cron jobs, les config maps, et les secrets, tout ça, c'est bien, il n'y a pas de souci, il faut les utiliser dans Kubernetes. Après, ce qui va être... stateful set, les persistent volume et airbag, donc attention parce que c'est pas c'est pas évident à utiliser, bien configuré, etc.
Lui, ce qu'il dit aussi, c'est que il utilise les stateful set, mais il a pas confiance dans la stabilité du domaine. Du coup, il va plutôt utiliser une database de service ailleurs.
Ouais.
plutôt que de déployer la base de données sur, sur Kubernetes. Donc, tout ce qui est données dérivées, par exemple, des index, voilà, des vues matérialisées, il peut l'utiliser Kube.
Et du coup, après, à éviter donc, le YAML, mais surtout fait à la main. Donc, c'est pour ça qu'il préfère ce qui est quand même automatisable et IaaS, etc. Éviter les opérateurs, les custom resources. Helm aussi, apparemment, il n'aime pas trop Helm. Tout ce qui est mesh. Alors là, bon, il balance tous les services mesh, les ressources ingress. Et puis après, il a tendance à aussi à dire, donc là plus pour la, on va dire la developer experience, quand on essaie absolument de répliquer toute la stack Kubernetes complète localement sur sa machine, voilà, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Et puis il faut des sacrées machines. Et puis on n'arrive jamais à vraiment reproduire parfaitement, en tout cas.
Ouais, parce que les gens vont dire non, mais moi j'utilise Kind et ça se passe bien, mais Kind ça fait ça, mais ça fait pas ça. Et ça si pas, du coup, un de tes services utilise la fonctionnalité qui a été un peu écornée.
Donc voilà, c'est comme en PHP, on touche directement le cube en prod et puis voilà. Ouais. Non, c'est ça, pour tester. Je sais pas. Mais voilà, j'ai trouvé ça pas mal parce que le mec critique, mais habituellement en tout cas, mais là au moins il est clair sur ce qui est bien et moins bien.
Il critique un truc qu'il utilise, c'est déjà pas mal.
Oui, c'est vrai.
Et il le recommande à ses compétiteurs, mais du coup, on ne sait pas si
c'est positif ou négatif.
Si c'est de la bonne foi ou si c'est ouais, j'aime beaucoup cette sauce piquante. Je vous la recommande à tous.
Je ne sais pas si ça se dit trop en anglais, ça. I wouldn't recommend it to my enemies. Mais en français, on dit ça. Je ne recommande pas à mes ennemis. Alors, on va passer aux données, à l'intelligence artificielle.
Il est temps qu'on parle d'IA, quand même.
Alors, on va parler d'abord de Mistral IA et de Microsoft qui viennent de passer un accord sur... le modèle le plus puissant de Mistral, qui du coup n'est pas open source, enfin pas du coup, mais qui en plus n'est pas open source. Donc Mistral qui se positionnait énormément sur nous, on est ouvert en termes de modèle. Là, ils font ouvert sauf quand ils sont les plus gros, parce que compétitivité, adresser le marché, etc. Donc, par contre, ils ont un partenariat qui est pour l'instant exclusif, en tout cas que avec Microsoft, qui est ce modèle qui est déployable et utilisable par les gens chez Azure.
Donc, ce modèle privé large, etc. Parce qu'après,
Tous les autres. Voilà, Mistral.
Enfin, Mistral, par exemple, nous, on l'a sur Google Cloud.
Et puis il y a plein de dérivés d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont
fait. Et tous les dérivés, oui, bien sûr.
Absolument. Donc on parle vraiment du modèle le plus puissant, mais par contre, c'est. Et Microsoft rentre dans le capital, un peu comme ils ont fait avec OpenAI, juste pas les mêmes volumes d'argent. Du coup, l'article, en fait, est assez... c'est de la Tribune, mais un peu critique. C'est au revoir l'indépendance de l'IA européenne et des modèles open source larges, ouverts à tous. Là, OpenIA, d'ailleurs, qui se fait attaquer en justice par Elon Musk, parce que dans OpenIA, il était censé y avoir open comme open source, mais c'est fini.
Y a quelqu'un d'autre qui les poursuit. Et c'est Elon Musk lui-même, en fait.
Ouais,
mais Elon Musk, franchement, il faudrait faire vraiment tout un épisode pour parler de ce monsieur. Parce que là,
vas l'inviter, tu vas faire une interview.
Ah my god, mais vraiment, en fait, le mec, il se dit attends, il y avait Open dessus.
Alors, c'est un peu plus.
Évidemment que c'est plus. Il va pas me faire croire. Non, là, je vais déverser mon avis. Hein. Va pas me faire croire, ce monsieur, que vraiment, il s'inquiète que c'était open et que c'est pas open et open source, machin. Elon Musk, en fait.
Lui, il dit j'ai mis du pognon dans un truc que j'ai cofondé, qui était censé être non-profit. Et là, vous faites une énorme société for-profit d'en dessous, évaluée à je sais pas combien de milliards.
Et du coup, c'est quoi son profit à lui qui perd? C'est quoi? Moi, ma question est, quel profit perd lui? Ça doit être lié à d'autres choses. Mais il veut pas me faire croire ou m'avaler la pilule que le mec s'inquiète pour l'open source des choses, tu vois? Et pour la beauté et pour être vraiment, on m'en avait dit, je suis Stallman, tu vois, Elon Musk, Stallman.
Alors, en tout cas, la façon dont il l'explique, il est pour l'ouverture parce qu'il a peur des intelligences artificielles fermées, contrôlées par Little Few, en fait. Il a depuis pas mal d'années, en fait, depuis les débuts hypothétiques de l'IA, ça a été son positioning.
Et il a annoncé aussi, le tweet n'était pas très clair, mais sur Twitter, il avait annoncé que leur modèle Grok deviendrait open source. Et c'est un bon modèle. Un des rares à le faire, en tout cas.
Ouais. Qu'il allait open sourcer Grok la semaine prochaine, mais comme Elon Musk et les dates, c'est toujours.
Ça se trouve, il a changé d'avis. Il va dire, finalement, comme les autres ne le font pas, les font plus, nous non plus, hein. Et c'est pour ça, quand ça va finir les process open, ça se trouve, j'ai dit ça, et en fait, quand les gens vont écouter, ils vont dire,
Être ouvert. Et voilà, Katia, la mauvaise foi, Katia.
Mauvaise foi. Ah non, mais je suis mauvaise foi, parce que moi, ce monsieur, je sais pas, en fait, il y a quelque chose, moi, qui me dérange, je sais pas, ça me dérange, j'ai l'impression qu'on nous prenne un peu pour des cons aussi, quand il s'agit des milliardaires comme ça, c'est qui essayent de parler en mode voix du peuple, de l'open, de machin, et de ah non, les dérives, etc. J'ai un peu du mal, en fait. J'ai un peu du mal à croire au véritable. Ouais, je le vois plus comme un misanthrope, en fait, lui, que comme un véritable.
C'est pas un philanthrope, c'est un misanthrope.
Ouais, pour moi. Mais ça reste un avis. Mon avis vaut rien du tout, en fait. Il vaut juste. Un avis comme n'importe lesquels, en fait. C'est pas du tout.
Après, en tout cas, pour revenir sur Mistral, du coup, les gens, que ce soit Twitter ou des articles, c'est vrai que les attaques là-dessus, sur le fait de ne pas avoir ce modèle ouvert là. D'un autre côté, c'est vrai qu'il faut quand même qu'ils aient des revenus pour pouvoir payer la recherche qui permet d'ouvrir tous les autres modèles qu'ils ont et qu'ils se sont committés à continuer à supporter l'open source et de faire des modèles ouverts. Et ce que je me demande aussi, c'est vraiment les très gros modèles, est-ce que ça change vraiment beaucoup qu'ils soient ouverts ou pas, dans le sens où il n'y a que des gros acteurs avec des grosses fermes de GPU qui peuvent entraîner des modèles comme ça. Donc je sais pas si ça changerait vraiment grand-chose et que les gens pourraient en faire quelque chose eux-mêmes, du coup. Ou c'est peut-être juste pour la transparence, peut-être.
Ouais, mais Llama, c'est pareil. Je crois que c'est un.
Llama, ouais.
Llama, oui, ils ont 350 000 processeurs.
Non, d'accord, mais je veux dire, c'est pas. Llama, c'est intermédiaire, c'est 70 milliards. Donc ça peut encore se tourner, même sur une grosse machine de bureau, on peut arriver à en faire tourner un. Mais là, on.
Non, parle, pour le calculer.
Ouais. C'est des centaines de milliards de paramètres. Donc là, il faut des fermes de H100 et A100 et je ne sais quoi, de NVIDIA, quoi.
Ouais. OK, donc pour revenir à notre truc, je sais pas si on en avait parlé, mais je crois qu'on en avait parlé, c'est que la Commission européenne a passé son IA Act, qui avait eu pas mal de lobby de la France, Mistral et la France, du coup, pour atténuer et laisser des portes ouvertes pour certains pour garder de la compétitivité et de l'innovation. Donc, ils avaient trouvé un compromis. Et du coup, ça a fait un peu grincer des dents à Bruxelles parce qu'ils avaient allégé certaines contraintes pour Mistral qui leur fait en gros un bébé dans le dos par rapport à l'ouverture. Peut-être que des gens ils vont se reposer un mois et qu'ils vont retourner à bouffer ensemble, mais bon, pendant un moment, ils vont faire cantine séparée. Voilà. Après, effectivement, c'est une bonne décision économique pour Mistral d'ouvrir des approches de revenus plus faciles, en fait, que l'open source.
Et c'est une petite histoire, une petite anecdote très légèrement liée à ça, mais donc là, j'étais au Mars Jug et au Riviera Jug pour parler de Generative AI en Java, avec Langchain4j, tout ça. Et ce qui était rigolo, c'est qu'au Riviera Jug, en fait, c'était hébergé chez Amadeus. Et l'amphithéâtre dans lequel j'ai donné ma présentation sur Gemini, etc. de Google, la salle s'appelait Mistral. C'était assez rigolo et j'aurais dit, c'est marrant parce que on a parlé de Gemini, mais on est dans la salle Mistral. Voilà.
Et d'ailleurs, ils ne sont pas dans le même coin, Mistral ?
Non, ils sont sur
Paris. Ils n'ont pas des bureaux Mistral, là-bas.
Je ne sais pas que je le sache, non, je crois qu'ils sont pas là. Okay.
Ouais. Bon, en tout cas, plus important, plus impactant pour le monde. Infinispan 15 est sorti.
Évidemment, ça c'est. tout ce qui se passe avec Elon Musk, la géopolitique, tout le bordel de partout, c'est secondaire comparé à la news que InfiniSpan 15 est sortie et finale.
Et ça, c'est open source.
Et ça, c'est, pour le coup, c'est 100% open source, oui. On fait pas, on a Apache 2, donc on peut faire ce qu'on veut avec. Il y a un opérateur, on peut le déployer de beaucoup de manières et puis donner beaucoup de cash et bien performé grâce à ça, et c'est bien open pour le coup sur, sur GitHub.
Alors, et donc oui,
juste pour faire un aperçu très très rapide, maintenant il faut JDK 17 pour InfiniSpan 15, et donc il y a plusieurs features fonctionnalités. Donc l'un, c'est l'implémentation du protocole Redis RESP, ce qui permet de faire un hot replacement de Redis, donc utiliser tes applications avec ton client Redis, et par contre derrière dans le backend avoir du multithreading, ton serveur multithreadé, du clustering avec la réplication cross-site, qui est qu'on déploie deux sites séparés et la réplication s'est fait entre caches, différents persistent store, etc. Avoir différents caches aussi avec le même connecteur Redis. Donc, ça permettrait d'avoir deux caches qui pourraient avoir des configurations différentes. Donc, bref, il y a tout ça qui est en place pour ça. Donc, la recherche vectorielle, parce que nous, dans le serveur, on embarque pour faire du search Lucene avec Hibernate Search. Ça a été mis à jour et il y a la recherche vectorielle qui peut se faire, ce qui a permis de faire une intégration avec LangChain, la LangChain Python et LangChain 4J et LangChain avec Quarkus, la complète. Et donc, on est, InfiniSpan peut être un embedding store.
LangChain, c'est LangChain 4J. Ah, mais vous avez fait une intégration supplémentaire.
Aussi, oui. Il y a aussi l'intégration LangChain 4J. Pardon. Il y a aussi l'intégration LangChain du projet Python. Parce que il y a un client Python qui peut être utilisé et que donc l'intégration est faite. Et puis après, il y a beaucoup d'améliorations sur toutes les différentes fonctionnalités existantes d'InfiniSpan, dont le support de Protobuf 3 pour l'échange des données et la nouvelle release de ProtoStream, qui est une librairie qui permet de faire cette sérialisation là. Et aujourd'hui, elle a une très belle API et l'intégration est plutôt très simple avec. Donc voilà, c'est ça mes deux minutes de je suis assez fier de ce qu'on a fait.
ProtoStream, c'est un truc que vous avez fait, hein, c'est ça?
C'est une
les schémas, vous pouvez pas le faire programmatiquement, dynamiquement ou un truc comme ça.
On peut faire les deux maintenant. Okay. On peut avoir un schéma qui est écrit avec une API de manière programmatique et tu écris tes marches à l'air aussi de tes objets Java. Donc, tu utilises la sérialisation. En fait, tous ces objets Java se sérialisent en protobuf. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir un schéma déjà de données et d'avoir un protocole binaire d'échange des data. Et puis, très petit, en fait, toute la puissance du protobuf, et ProtoStream permet de faire ça. Donc, en gros, soit tu peux utiliser des annotations sur tes objets Java. Et aujourd'hui, par exemple, on peut utiliser des records, juste rajouter une annotation proto et automatiquement te fait par défaut toutes les mappings en objet, un message protobuf, sans rien d'autre, en fait. Alors qu'avant, il fallait mettre beaucoup de choses. Là, c'est super léger. Et puis ensuite, c'est bon, en fait, t'as un petit schéma, tu dis au serveur, c'est ça, on a besoin de cet schéma du protobuf. Et en fait, en gros, ta data peut être échangée en protobuf avec InfiniSpan.
Okay. Et du coup, comme tu dis que c'est dynamique, donc ça veut dire même si l'autre n'a pas encore le schéma, t'envoies le schéma et...
En fait, le schéma, on l'envoie au serveur, le serveur le stocke et ça suffit. Le serveur, il est capable de lire et écrire du protobuf entre serveurs, entre le client et le serveur, entre serveurs.
En fait, ProtoStream de mémoire, c'est que t'es pas obligé de générer le client pour lire le protobuf. Donc ça, il l'utilise
pour... Il le fait, avec annotation.
Par exemple, pour indexer les données, donc ils veulent dire, ah bah tiens, tu veux indexer tel champ. Du coup, je vais scanner le protobuf en forme de stream, du coup, et je vais choper tel champ que je vais après travailler en tant que base de données, quoi.
Mm-hmm. En fait, après, ce qu'on permet avec InfiniSpan, ProtoStream et Hibernate Search, c'est de prendre une classe Java, dire OK, ça c'est du protobuf, et ensuite de dire, et en plus, je veux que ça soit indexé avec une petite annotation et dire, et ça, c'est un keyword ou un texte ou des choses comme ça. Et en fait, Infinispan va comprendre ça. Et dès le moment que tu vas mettre des données avec ces formats, bah, par exemple, people ou des livres, en fait, tu le mets dans un cache qui contient ces livres, bah, le cache est indexé. Et puis, tu peux faire la recherche full texte aussi, par exemple. D'accord. Ça permet de faire ce genre de choses.
Allez, on va passer à l'outillage. Et il y a quelqu'un... Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai fait un blog sur comment signer les commits avec SSH, avec votre clé SSH. Et en fait, comment le faire simplement, parce qu'avant, c'était PGP, donc c'était assez compliqué. Et là, il y a un article sur « mais ça ne sert à rien de signer les commits ».
Ne le fais pas.
Toi, Guillaume, qui l'a
ouais, mis. Ouais. Alors, donc, le gars avait l'air de dire « oui, maintenant, on est obligé de tout signer tout le temps, partout, c'est bon ». Tout ça pour avoir son petit badge vérifié quand on est sur GitHub. Et lui, il a l'air de dire que bah c'est assez, enfin pas contraignant, mais c'est assez. Si t'as un commit signé, est-ce que ça, potentiellement dans le futur, on dira c'est ta responsabilité, c'est toi qui as signé le truc, et on va peut-être pouvoir te le reprocher. Bon, à voir si légalement c'est ça a vraiment ce côté aussi fort que la vraie signature, enfin que ce soit numérique ou papier, hein.
Après, les procès qui disaient « non, c'est pas moi le commit, quelqu'un m'a menti », bon, j'en ai pas eu beaucoup.
Non, c'est sûr, mais voilà, c'est voilà, potentiellement, on peut imaginer que c'est, comment on appelle ça, une liability, une responsabilité. Ensuite, il expliquait aussi que, alors c'est quand même essentiellement GitHub hein, qui fait ça, et pas forcément quelque chose de générique.
C'est générique, tu peux signer avec Git. Oui. Par contre, GitHub a une intégration
particulière. Du coup, il trouve que c'est un peu une autorité de confiance centralisée, alors que justement, on peut commiter ailleurs et pas que là.
Sixstore qui a un peu le même problème d'ailleurs.
Comment ?
Sixstore qui a un peu le même problème où il y a peu d'autorités de confiance, donc elles sont aussi en oligopoly.
Après, donc, qu'est-ce qu'il disait? Oui, que ça introduisait les problèmes de fiabilité inconnus dans l'infrastructure qui repose sur ces signatures de commit. Alors, est-ce que c'est par rapport à la code base, en tout cas de GitHub et côté propriétaire?
Non, je pense que ça rajoute de la complexité, surtout parce qu'il faut que tu déploies ta clé. La clé, c'est toujours, elle est sur mon laptop, mais qu'est-ce qui se passe si je me le fais voler? C'est plutôt ce genre de.
Et puis après, il y a le côté, ce que j'avais mis dans les notes, une violation temporaire de vos identifiants GitHub entraîne désormais les conséquences potentiellement permanentes. C'est-à-dire si quelqu'un parvient à introduire une nouvelle clé de confiance. Donc c'est vrai qu'après, quelqu'un pourrait signer en votre nom alors que c'est pas à vous. Ça, c'est un autre problème. Et puis...
Attends, non, c'est pas vrai ça. Laissez signer en local.
Ok, ouais.
Il me semble bien que c'est signé en local.
Ben, je sais pas.
En fait, tu fais un git moins s, quoi, en gros.
Ouais.
Et après, ce que fait GitHub, c'est qu'il regarde ceux qui sont signés, par quelle clé, et puis si tu as mis ta clé chez GitHub, donc t'as la partie publique de ta clé, non pas la partie privée.
Ah oui, d'accord.
Mais il met le vert.
Ouais. Ouais, effectivement. Et, mais du coup, parce que aussi, moi, je sais que... Donc quand c'est parce que tu sais t'as aussi une fonctionnalité sur GitHub pour pas être public comme quoi c'est toi qui as committé particulier dans parce que par exemple j'avais une collègue qui disait oui moi je commit pour Google parce que je fais un truc pour Google mais c'est pas tu sais t'as ton compte perso et je veux pas forcément être associé et que les gens me retrouvent parce que j'ai committé ça alors que c'est dans le cadre de mon travail. Donc il y a aussi une sorte de fonctionnalité de. Enfin, je connais vraiment pas bien ces choses-là. J'ai jamais configuré tout ça. Donc,
Alors c'est pas signé, mais je définis des fois des emails qui sont différents en fait.
Ah, spéciaux pour. Ouais. Donc non, moi c'est vrai que je fais tout avec le même compte, que ce soit des trucs perso, pro ou quoi. Et c'est vrai que peut-être qu'il vaudrait mieux en vrai séparer les deux.
T'as encore ton compte Caramel?
Non, non, mais je me rappelle.
J'ai la forge à caramel.fr.
Non, 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 c'était BuzzyBee. Je ne sais pas
Buzzy,
pourquoi.
BuzzyBee.
Ouais, okay. J'étais mieux avec ça, mais du coup, je me rappelle encore de mon identifiant. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Des nouveaux types de surcharge de processus continu. Donc, les clés de signature de commit, ça devient une nouvelle infrastructure permanente à gérer avec des nouvelles questions comme qu'est-ce qu'on fait des clés qui sont expirées, quand est-ce qu'il faut les renouveler, etc. Donc, c'est des soucis éventuellement en plus. Et sinon, il disait aussi, a priori, on peut configurer pour empêcher de pousser des commits non signés.
C'est pas lui qui dit ça, mais c'est dans GitHub, en l'occurrence, tu peux dire, moi, je refuse un push
qui soit
dans lequel il y a des commits qui sont pas signés.
Ouais. Et du coup, ça.
Ouais, ça c'est une fonctionnalité. C'est pas juste un petit drapeau vert en fait. Tu peux appliquer des restrictions en fait au fait des choses qui sont pas signées. Donc si par exemple.
Montrer patte blanche pour rentrer.
Ouais. Si par exemple. Ah tiens, c'est une bonne question parce qu'en fait, tu peux éditer avec l'éditeur web de GitHub là.
Ouais.
Et il commit. Et c'est possible qu'il puisse commit en
vérifiant. Oui, mais peut-être que là, il n'est pas. C'est pas un commit signé, tu fais ça, non?
Bah, du coup, il faudrait tester, parce que peut-être que j'ai dit une connerie alors. Mais je ne me semble pas lui avoir donné ma clé privée.
Ça pourrait être une connerie dans le sens où, effectivement, lui disait un peu le contraire de ce que tu disais. Donc, à vérifier, je ne sais pas.
Ah, non, les deux peuvent être vrais. C'est-à-dire qu'on a peut-être donné la clé pour que GitHub il puisse faire les signatures quand il est en mode web. Mais je suis quasi certain que ça signe en interne.
Bref. Ça va signer.
En parlant de tout ça, on pourrait passer à la sécurité. Parce qu'il y a justement deux sujets. Le premier, c'est les modèles avec les backdoors uploadés sur Hugging Faces non détectés.
Ouais.
Qui a mis ces news?
C'est intéressant. C'est des chercheurs de nos amis de JFrog. Mm. Ils ont détecté une centaine de modèles qui avaient une backdoor dedans. Je vais expliquer la backdoor, comment elle marche derrière. Et parmi cette centaine, ils en ont trouvé 10 qui étaient malicieux. Donc, ils assument qu'il y a probablement pas mal de chercheurs qui essayaient de voir chercheurs en sécurité, comment hacker le truc. Mais il y en a 10 où ils se demandent si c'est pas exploité en réel. Et en fait, ils faisaient des tests. Ceux qui sont malicieux, c'est des tests où ils arrivent à exécuter de code qui fait en fait un reverse SSH vers une machine, et du coup, c'est un peu le mode control and command de bot. Et du coup, votre machine devient un bot, la machine sur laquelle vous faites tourner le modèle. Et en fait, ça s'appuie... Alors, du coup, les modèles, c'est du Python. Enfin, c'est du Python qui est exécuté. Le modèle est exécuté par une machine virtuelle Python, entre guillemets, machine qui exécute le modèle. Et du coup, c'est sur le format de sérialisation Pickle qui est de moins en moins utilisé, mais qui est encore utilisé et qui a des problèmes, des failles de sécurité comme beaucoup de formats de sérialisation. C'est toujours compliqué les interpréteurs. Voilà. Donc, c'est connu comme dangereux, mais populaire en termes d'utilisation. Et du coup, en hackant le truc, dans le modèle, ils arrivent à exécuter du code Python qui fait un reverse SSH. Et qui après on peut exécuter ce qu'on veut avec, parce que c'est du Python. Voilà. Et le deuxième, il y avait un autre truc. Oui,
une attaque. Première side attack channel sur les LLM.
Ouais. Alors les side channel attack. Ouais, j'ai inversé les mots. Les side channel attack, c'est un truc où quand on a parlé de Meltdown et Spectre, là, c'était des side channel attack où on dit en fait, on regarde l'algo, et moi, si j'arrive à, comme je mesure le temps de l'algo, je sais s'il va sur une branche ou une autre. Donc, c'est pas qu'on va attaquer l'algo en tant que tel, mais on va attaquer la façon dont il se comporte, donc le side channel, pour trouver l'information. Et là, c'est ce qu'ont fait des chercheurs en sécurité sur du LLM. Et c'est un peu tout con, hein, mais ils s'appuient sur le fait que les LLM, ils envoient les tokens les uns après les autres. Donc vous voyez, en fait, quand vous utilisez OpenAI, par exemple, ça écrit au fur et à mesure la phrase, en fait. Je pensais que c'était juste un artifice pour rendre ça plutôt joli, mais en fait, non, ils envoient les tokens au fil de l'eau plutôt que faire attendre quelqu'un 20 secondes avant d'avoir la réponse entière et de l'envoyer. Et du coup, il s'appuie sur la taille des paquets qui sont chiffrés, puisque ça va permettre de savoir s'il a en gros la taille du token qui est dedans. Même s'il ne voit pas le paquet en lui-même, enfin, il ne voit pas le contenu du paquet, il voit la taille du paquet, parce que ça, c'est le TLS, il ne cache pas ça. Après, ils peuvent voir peut-être le temps d'attente entre les différents tokens, et du coup, ils arrivent à savoir la longueur d'un token différent. Et du coup, ils ont un ensemble de longueurs probables de tokens, et ensuite, ils utilisent un LLM lui-même qui est optimisé pour, à partir de longueur de tokens, de retrouver les tokens en tant que tels. Et donc, ils arrivent à extraire... l'information. D'ailleurs, il y a, je sais pas si vous avez vu, mais dans le procès justement OpenAI, il y a des extraits d'emails de Elon Musk et avec certaines choses qui avaient été marquées avec du feutre noir. Et le feutre noir, enfin virtuel, hein, le feutre noir. Mais en fait, en fonction de la longueur du feutre noir et en utilisant un LLM, on arrive à trouver les mots probables. Donc là, c'est la même technique. Donc la solution, elle est assez simple. Hein. Il faut faire du padding, par exemple, pour que tous les tokens aient la même taille en termes de paquets, ou alors mettre un peu d'aléatoire dans le temps de latence, voilà, ce genre de choses. Mais donc c'est OpenAI qui était attaqué, mais il y a d'autres LLM, enfin d'interfaces de chatbot qui ont ce genre d'interface. Mais pas Google, apparemment.
Nous, c'est vrai que... Enfin, c'est marrant parce que c'est une question qu'on m'avait posée. Parce qu'en fait, donc effectivement, quand tu utilises OpenAI, c'est quasiment token par token. Mmh. Alors que nous, c'est plus, on va dire, phrase par phrase, voire des fois, c'est même des paragraphes éventuellement de quelques phrases. Donc du coup, tu peux difficilement déduire quoi que ce soit en termes de statistiques par rapport à la probabilité de taille des mots et de fréquence des mots, quoi. Donc du coup, je pense qu'effectivement, tu ne peux pas le faire. Même si du coup, par contre, les gens aimeraient qu'on fasse des envois plus petits et plus réguliers pour voir justement le côté un petit peu incrémental, comme si on écrivait plutôt que voilà, paragraphe par paragraphe.
Et après, ça se trouve, il y a quelqu'un chez Google qui disait « I knew it !»
Peut-être, mais c'est peut-être une raison.
Peut-être une des raisons, oui. D'ailleurs, je me demandais, pour la génération d'images, est-ce que tu sais, est-ce que c'est genre bloc par bloc?
Tu veux dire quand on l'envoie ou
Pas quand on l'envoie, mais du coup, comment c'est généré par le LLM? Est-ce que c'est un peu comme des tokens qui sont envoyés qui correspondent à des pixels, en fait, ou des blocs d'images?
Donc, c'est les modèles par diffusion, en fait.
Ouais.
Donc, tu sais, tu pars en fait d'une image aléatoire et petit à petit, t'enlèves du bruit pour se dire, ah bah tiens, là ça ressemble plus à un chien, et tu vas vers l'image de plus en plus nette, sans bruit, petit à petit, vu que tu enlèves du bruit, tout en générant quelque chose qui correspond à ce qui a été demandé. C'est-à-dire, si tu dis un chien, lui, il a déjà vu une photo d'un chien, et donc tu rajoutes plein de bruit, et tu renlèves plein de bruit, et ça te régénère une photo de chien. Mais c'est pas des tokens.
Du coup, c'est pas pareil. Je savais pas que ça, c'était qu'on partait d'un bruit, et qu'après, on trouve des formes, et qu'on les améliore chaque réseau, chaque niveau de neurones, chaque étage de neurone, en fait, l'améliore.
Okay. Ouais.
Super intéressant. Et ils sont fous quand même d'inventer des algos comme ça.
Tu te dis, mais
c'est pas si...
dans le hasard, tu trouves un chien, ok, d'accord.
Ouais, c'est ça.
Dans le hasard, c'est n'importe quoi, en fait.
Allez, on va passer à l'architecture, parce que Katia nous a fait sauter dans l'espace-temps de la sécurité, mais on revient à l'architecture.
La logique de l'épisode. Non, mais raison, on va pas m'en vouloir, on va pas finir avec ça quand même.
Non, la sécurité, c'est toujours après l'architecture, c'est comme ça.
Non plus, parce qu'il y a d'autres choses, mais en parlant de sécurité, ça m'a paru pertinent. Et là, parler justement d'architecture, de Netflix, à nouveau, on revient. Netflix avec Java.
Deuxième retour d'expérience.
Ouais. Oui. Et qui, Netflix utilise Java depuis longtemps. Il y a plein de microservices.
Ouais.
Et puis, ce qui a été surprenant, en tout cas pour moi, c'est d'apprendre qu'ils ont standardisé Spring Boot, mais il n'y a pas si longtemps. Que pendant longtemps, ils utilisaient Google Juice.
Ouais, plus une stack spécifique.
Oui.
En fait, moi aussi, ça m'a étonné parce que on parle de la Netflix stack pour les microservices avec Istrix, etc. C'était le gold standard du truc. Et en fait, quand tu vois, je sais pas si la présentation a été faite l'année dernière ou cette année, mais en gros, il dit, ça y est, ça fait un an ou deux qu'on a standardisé sur Spring Boot. Et là, tu dis, ah, d'accord. Donc en fait, il y a ce qu'on te vend et puis il y a la réalité derrière.
Oui, après, il y a l'évolution aussi au fil du temps, hein, tu vois. Je veux dire, ils faisaient du Groovy, du Grails, machin, et puis ils sont passés à autre chose, et toutes les stacks évoluent.
Ouais, bah, ils étaient un peu coincés sur du Java 8 avec Juice et mettre à jour les librairies. Bah, les librairies étaient plus mises à jour et du coup, ils sont restés bloqués un certain temps pour leur appli qui n'était pas changée tous les jours, quoi. J'imagine.
Et puis, ils ont quand même un Java 17 de 1800 apps Java.
Ouais. Ouais.
Donc, on parle pas de, ils ont, ouais, oui, le Netflix.
Ouais, moi aussi, je sais faire des 2800 Hello World. Hein.
Le petit, notre Netflix, là, le, voilà, on l'a mis à jour enfin. Oui, ouais. Il y avait quand même 2800 apps différentes. Je peux même pas imaginer ce qu'il y a derrière tout ça, en fait, niveau infrastructure.
Ouais, c'est clair. Et c'est marrant, ils expliquaient leur génération. Donc, oui, effectivement, tu disais, ils utilisaient Groovy. Alors, ils parlent pas de Grails spécifiquement, mais ils disaient qu'ils utilisaient Groovy pour exprimer les règles au niveau de leur ouais. gateway pour dire, ben, j'ai tel front-end qui fait une voilà. demande et en fait, faut que j'appelle ces 27 back-end pour après agréger l'information et la ramener. Donc, ça utilisait Groovy, et puis les back-ends, ils étaient avec du RX Java, du coup du réactif, et pour être plus efficient là-dessus. Et ça, tout ça, c'était avant GraphQL, et donc ouais. leur génération 2,
en fait. Il y avait un pattern, comment ils l'avaient appelé, c'est best front-end for back-end ou...
Back-end for front-end, oui.
Back-end for front-end, c'est ça le titre ouais.
Ouais. C'est one back-end. En fait, t'as un back-end qui est spécifique à un front-end, et ce voilà. back-end-là, il fait le job... Ouais. D'aller appeler tous les autres backends. Par contre, eux, ils l'avaient généralisé, c'est-à-dire qu'ils avaient littéralement un seul backend avec des classes Groovy qui exprimaient voilà, ouais. chaque backend for front-end. En fait. Donc là, maintenant, ils utilisent GraphQL pour faire ça, et voilà, même GraphQL fédéré. Donc, ils utilisent, en fait, c'est leur nouvelle gateway. Et du coup, ouais. en fait, pas mal de nouvelles applis n'utilisent plus, sont plus réactives parce que, en fait, c'est géré par GraphQL, cette approche d'appels en parallèle, etc., etc. Voilà, ils utilisent, on en a parlé, ils utilisent G1 où ils ont gagné 20% de CPU, sauf pour leur gateway, là, que Zool qui utilise Shenandoah. Et ils planifient Java 21, mais du coup, on vous a fait le retour d'expérience d'après, mais qu'on a fait avant. Voilà, donc vous avez tout. Et après, bon, le reste de l'article est beaucoup plus spéculatif sur ce qu'ils aimeraient faire ou ce qu'ils vont faire bientôt, etc.
Ouais, j'étais surprise d'apprendre qu'ils allaient utiliser InfiniSpan 15. Ça m'a fait très plaisir qu'ils explorent ça. Non, je rigole.
Ouais, bah, c'est une AI qui a halluciné encore,
tout le monde
ça,
sait que je rigole, malheureusement.
Ouais. Ça y est, Katia y a halluciné encore.
Oui.
Alors, il y a un long article sur les microservices de maccorbin.fr. Et vous allez dire, ah, les microservices, on en a vu plein. Oui, mais celui-là, il est long et il explique vraiment plein de trucs. Donc, si vous êtes au milieu, en pleine crise microservicienne ou que vous avez une des discussions sévères dans votre équipe pour savoir si vous y allez ou pas, si vous en faites plus, vous en faites moins. Je trouve que ça... Alors, il vient avec ses opinions, mais je trouve que ça couvre beaucoup de choses sur les patterns de communication, le synchrone versus l'asynchrone, le coût que ça a, la copie de données, comment tester le monolithe distribué ou pas, voilà. Et donc, je trouvais que c'était un bon, enfin, assez synthétique parce que ça se lit, mais ça se lit en 20 minutes. Et après, on peut avoir des conversations de bureau derrière pour converger en tant qu'équipe. Donc, moi, j'ai bien aimé cet article. Allez, on va passer aux méthodologies. Alors, est-ce qu'on peut devenir dev à partir de 40 ans, Katia?
Ah oui, cet article que j'ai trouvé. Qui m'est arrivé dans la newsletter de CodeMotion. Donc, c'est ouais. un article d'opinion d'une personne qui a déjà 40 ans, j'imagine, voire plus. Je sais pas. Je vais pas juger. Faut pas juger sur la photo. Faut pas juger sur la photo. Moi, j'ai 42 ans bientôt. Et puis, du coup, en fait, j'étais un peu mitigée dans ce qu'il disait, en fait, dans les avis. Okay. Du coup, c'est pour ça que j'avais envie aussi, je l'ai pas partagé en me disant, ah ouais, totalement d'accord, c'est pas possible, 40 ans, si t'as déjà 40 ans, tu peux pas devenir un bon développeur ou développeuse avec le temps. Je pense pas du tout ça, en fait, moi. Après, il dit beaucoup de choses. Il dit d'une part qu'il mélange il parle de développeur et puis après il parle d'un bon architecte de software. Voilà.
Ouais, il parle d'architecte sans être développeur avant, en fait.
Oui.
Pour avoir eu d'expérience de développeur.
Oui, mais en fait, déjà, il y a ça. Et puis, il critiquait aussi les bootcamps ou les formations express qui te permettraient d'apprendre à coder ou rentrer dans une stack technique et apprendre et tout. Et comme quoi, il disait, mais non, c'est un mensonge, en fait. Tu peux pas devenir... ok, mais en fait, personne dit que tu vas devenir les meilleurs développeurs de la Terre en 3 mois non plus, en fait, avec tout ça. Ce qui te donne, c'est des socles pour démarrer et pouvoir démarrer à faire des choses, déjà. Donc,
à mon avis,
ça fait un peu gatekeeping, cet article. Ah, et okay. je suis un peu mitigée vis-à-vis de ça. J'ai pas envie qu'on dit ça, et j'ai plein contre-exemples des personnes qui se sont reconverties à 38 ans. Donc, il dit 40, 38. Mais
ils n'avaient pas 40.
Ils n'avaient pas 40, mais 38, 39, même 40, 41. Et qu'il faut voir qu'ils ont derrière eux peut-être une vingtaine d'années de carrière dans lesquelles ils ont développé peut-être soft skills sur d'autres aspects. Et ça leur donne une maturité autre, ça leur donne autre chose. C'est pas t'arrives à 40 ans après avoir été chez toi pendant 20 ans à dormir. C'est tu viens avec déjà un background qui est non négligeable par rapport à quelqu'un qui a 20 ans ou 23 ans. Donc je pense que c'est pas pareil. Et puis c'est normal aussi quand t'offres une formation dans laquelle tu vas pas partir sur un bac plus 5 à ce moment-là. Et même, est-ce que t'en as besoin? T'as pas besoin, t'as pas le temps, t'as pas besoin, t'as une motivation autre, en fait, aussi. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui, c'est non négligeable et qui rapporte beaucoup. Et puis ensuite, développer et devenir bon en développement, c'est une question de travail, qu'on te donne des opportunités pour le faire aussi. Et puis, en fait, si tu te places à 20 ans, je sais pas si on va avoir une retraite, mais devant à 65 ans, il y a quand même 25 ans. Et moi, j'ai envie de croire qu'on peut finir à 65 ans étant toujours développeur. Et je le pense très profondément, parce que je connais un monsieur qui s'appelle David Gageot, dont tout le monde connaît.
Il a 65 ans, David.
Non, mais son père, il faisait du Java. Il y a 10 ans, moi, j'avais fait un talk autour de ce sujet-là, de continuer à développer dans la durée, dans ta vie de carrière, et d'être développeur, développeuse. Et en fait, le père de David Gageot, il avait pris sa retraite. Avant de prendre sa retraite, il s'est lancé en freelance faire du Java. Parce que il voulait étoffer un peu plus sa retraite, ce qui est complètement normal. Donc il développait du Java et il lui posait des questions sur Maven à son fils, en mode attends, mais c'est pas Kitchen là, comment je fais, etc. Et il avait 65 ans et puis il était à la retraite quand j'ai parlé avec lui rapidement. Et en fait, il faisait de l'Apple Watch, il faisait beaucoup de choses lors de sa retraite, il continuait à coder. Donc moi, j'ai envie de dire, on peut continuer à coder et on a le temps, en fait, encore. Si on peut devenir un super bon développeur et hacker à 70 ans, je sais pas, en fait. Là, est-ce que c'est important de faire ça à 70 ans? Peut-être qu'on s'en fout. Mais à 40 ans, j'ai envie de dire, on doit pas avoir ces gens. Je suis pas d'accord avec faire de ces gatekeeping, en fait, des gens. De dire, il faut démarrer avant, sinon t'es trop vieux.
Ouais.
Bref. Ça, c'est mon avis. Encore une fois, ça reste mon avis et je sais pas si c'est le sentiment de tout le monde, en tout cas.
Et puis, de toute façon, aujourd'hui, il y a beaucoup de chances qu'on fasse plusieurs choses dans une carrière, y compris des changements assez drastiques de chemin dans sa carrière. Avant, on pouvait faire toute sa vie le même métier. Aujourd'hui, on voit qu'on change d'employeur, on change de service, on change de domaine, et pourquoi pas, passer d'un boulot un peu scientifique, qui a déjà quand même aussi, alors après, je sais pas si c'est forcément, on le voit peut-être plus pour des gens qui ont fait quand même des trucs scientifiques, on les voit plus migrer vers l'informatique, peut-être moins par contre d'autres, genre un littéraire, ça arrive peut-être moins qu'il aille.
Ça arrive énormément chez les femmes.
Chez les femmes,
ouais, oui, parce qu'en fait, justement, justement, comme les femmes sont bombardées depuis qu'elles sont jeunes.
Ouais.
Mais c'est trop mat. Hein. Mais toi, t'es pas. Mais toi, oh, mais toi, t'es. Regarde comment tu dessines très bien. C'est. Vaut mieux que tu fasses histoire de l'art. Et que. Ou que tu fasses un truc artistique ou un truc comme ça. Et donc, oh non, les maths, c'est pas pour toi. C'est pas bon pour toi. Et des femmes qui m'ont dit, si j'avais su ce que c'était le métier, moi, mes études, je me suis éclatée. Ils m'ont dit clairement ça et pas qu'une, hein. Je me suis éclatée dans mes études. J'ai adoré tout ce que j'ai appris sur l'histoire de l'art. Et après, concrètement, quand je suis allée travailler, mon boulot, c'était d'être de 8h à 15h dans un musée en train de surveiller les œuvres d'art. Donc, niveau de métier, niveau ce que j'avais à faire et tout, j'ai m'ennuyé à mort. Alors que là, j'ai appris à coder, j'ai appris à faire du coding. Et donc, d'un coup, je retrouve que déjà, oui, il y a une partie qui, en effet, avoir des compétences en maths sont importantes, mais ce n'est pas indispensable pour beaucoup de parties de notre métier. Et que ça leur a permis de basculer sur ça, étant très des lettres et travailler en tant que freelance, en tant que développeuse dans le front, mais petit à petit en faisant plus de bac et etc. Donc je pense que c'est justement ça le drame aussi dans le biais qu'on a, les biais qu'on véhicule depuis qu'on est enfant déjà sur les choses. Et puis voilà, les gatekeeping, si on a des choses comme ça qu'on nous font du gatekeeping comme ça, moi je suis pas d'accord en fait, je suis pas d'accord. J'ai mis l'article mais juste pour qu'on en parle en fait de c'est quoi nos sentiments par rapport à ça. Et je crois que oui, qu'on peut, en effet, si tu as une formation des bases avant scientifique, je pense que c'est encore plus facile. Et j'ai envie de dire que tu peux avoir aussi beaucoup d'un truc vraiment de lettres et être surpris par tes capacités à piger ce qu'il faut faire et à prendre du plaisir à créer. Voilà.
Voilà. Et c'est clair, de toute façon, je pense que, en tout cas, indépendamment du chemin, si c'est littéraire, vers scientifique, vers informatique, ou même, on voit dans d'autres chemins aussi, des gens qui étaient informaticiens et qui ont arrêté et qui sont passés à quelque chose de complètement différent, ou pourquoi pas de l'art, ou
même j'ai connu justement deux développeurs qui étaient chez Ubisoft. Un c'était pas un développeur, un c'était plus un game designer chez Ubisoft, et l'autre c'est un développeur de jeux vidéo chez Ubisoft. Et aujourd'hui c'est deux acteurs professionnels dans l'impro.
D'accord.
Et donc il a bascule des carrières, et je me rappelle de parler avec justement Jonathan Chabossier qui s'appelle et qui est dans une compagnie professionnelle s'appelle Smoking Sofa, et lui il disait que ça lui manquait de coder, mais bon, quand finalement il devait choisir à un moment donné, il a basculé vers une professionnalisation dans l'impro plutôt à 35 ans. 35 ans, 38 ans, presque 40, pas loin des 40 ans. Donc j'ai envie de dire aussi, j'ai envie de dire, est-ce que pour eux c'était aussi trop tard pour leur dire non, mais faut pas quoi.
Non voilà, enfin en tout cas moi, mon point à moi, c'est juste de dire que je veux dire, plus ça va, plus ça avance au fil des, on va dire des décennies, plus on sait qu'on pourra pas forcément faire carrière toute sa vie dans le même domaine. Donc faut être assez open et prêt à se dire que on peut très bien faire une autre carrière dans un autre domaine, et tout est possible. Je pense que même si on n'a pas eu la formation, on peut se former sur le tas. Il y a quand même des formations, tu disais les bootcamps et autres quand même, où ça te permet de rapidement être opérationnel dans un domaine ou un autre, quoi. Donc c'est cool, ouais.
Et dans tout ça, on peut parler aussi de... Là, on peut faire un peu plus court parce que c'est vraiment hyper personnel. De Erin Schnabel, on dit comme ça ?
Erin Schnabel,
oui. Schnabel, c'est une distinguished engineer chez Red Hat aujourd'hui. Elle a été IBMer pendant 20 ans. Elle a fait un Java champion. Et du coup, elle a fait un talk.
Elle a travaillé sur Liberty.
Un focus qui s'appelle...
Je disais qu'elle avait travaillé sur WebSphere Liberty, notamment.
Oui. Et puis, donc, c'est une techos, et elle partage un peu sa carrière, donc, depuis toute l'expérience qu'elle a, et elle parle beaucoup d'elle, donc, de ses expériences à elle et les leçons qu'elle a apprises. Et comme tout, je pense que ces expériences-là sont super importantes parce qu'on peut toujours se réfléchir sur plein d'aspects. Et donc son talk s'appelle Navigate Your Own Way, c'est-à-dire elle donne des conseils pour complètement prendre conscience que on peut choisir sa carrière, qu'on peut choisir on peut choisir de pas follow ou de pas suivre quelque chose qui nous est imposé d'une manière et qu'on est vraiment maître beaucoup de fois dans notre vie de quels sont les choix qu'on peut faire dans notre carrière en s'entourant avec les bonnes personnes, en restant, en aussi beaucoup acceptant ta différence, c'est-à-dire voir quels sont, dans quels aspects de ta vie t'es différent aux autres. Et puis, au lieu d'essayer de l'échanger pour rentrer dans les moules, en faire une force. J'ai résumé très court comme ça. En tout cas, je vous laisse voir, je conseille qu'on voit son talk parce que c'est assez inspirant et c'est et on peut toujours prendre des bonnes idées sur la vie personnelle des gens et les conseils qu'ils donnent après autant des métiers, ce qui voilà importante aussi.
Ouais, et notamment elle a fait un choix de non évolution dans le promotion classique IBM en se disant mais en fait je vais être malheureuse à faire ça parce que c'est pas moi. Donc c'était assez marrant elle explique ce choix explicite de pas continuer le chemin pour en trouver un autre en fait. Sinon il y a un article sur les TDAH, donc le comment c'est déjà le trouble de déficit de l'attention et de l'hyper hyperactivité.
Moi, je me suis posé beaucoup de questions en lisant cet article sur moi-même. Hein. Franchement, je me suis posé beaucoup de questions.
Ouais, ça fait poser des questions. Moi, j'ai un collègue que je connais depuis longtemps qui est allé dans le même problème. Donc, cette personne, elle a été diagnostiquée à 44 ans de ses troubles juste parce que son fils, en fait, est passé par les cribles à l'école. Tiens, il y a peut-être un truc, est-ce qu'il serait pas... est-ce qu'il n'a pas un TDAH ? Et en fait, en lisant et en regardant le comportement de son fils, il s'est dit « Mais attends, mais c'est moi ça aussi ». Du coup, il est allé voir un médecin qui lui a dit « Bah oui, en fait, à l'époque, on réfléchissait pas et après, on s'adapte. On s'adapte, on trouve des modèles de compensation, ça peut amener, quand c'est pas diagnostiqué, à des burn-out, de la dépression, de l'anxiété, sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est juste parce que vous n'avez pas la conscience de la façon dont vous opérez en tant que personne. Et donc, c'est un schéma d'inattention et d'hyperactivité qui interfère du coup avec le fonctionnement, que ça soit social ou professionnel, évidemment à l'école, etc. Et donc, il explique les côtés positifs et les côtés négatifs. Donc, déjà, le côté positif, c'est que si on est vraiment intéressé par quelque chose, on peut rentrer dans le flow et d'être hyper... focaliser là-dessus et d'oublier pendant des heures qu'on est en train de bosser sur une tâche. Ça a tendance à faire une résolution assez créative de problèmes. Et comme de toute façon, on n'est pas capable de rester, enfin, à part quand on est dans le flow, mais de rester en attention très longtemps, on a envie de passer à autre chose assez vite. D'ailleurs, c'est le cas d'Erin, je crois. Je ne sais pas si elle est diagnostiquée, mais elle ressemble beaucoup à ça aussi. Et en fait, quand il y a beaucoup de changements dans les organisations, c'est un peu du pain béni parce que naturellement, vous savez, en fait, ça vous gêne pas, contrairement à d'autres qui ont plutôt une résistance au changement parce que leur approche au niveau de fonctionnement neuronal est, j'optimise ça et puis, oh là là, on me demande de faire autre chose, mais qu'est-ce que je saurais peut-être pas faire, etc. Et donc, pour le coup, là, ça génère de l'anxiété dans l'autre sens. Et le négatif, c'est que il sait pas gérer son temps, l'organisation, il est plutôt instable dans son flot de production, quoi. Et du coup, il est, voilà, c'est les choses qu'il doit essayer de compenser ou d'accepter, quoi. Et après, il explique comment ça se passe dans le cerveau, pourquoi ça fait ça, et puis quelques techniques et des pièges à éviter quand on est diagnostiqué comme ça, d'éviter de tomber dans des pièges qui vont nous rendre la vie plus compliquée. Voilà, donc Katia, Alors, tu vas aller voir un docteur ou pas? Ou tu te...
J'ai jamais été dans des troubles, heureusement, jusqu'au là. Je pense que j'ai jamais eu, ni, je suis plutôt de nature stressée personnellement, mais pas anxieuse ou dépressif. Hein. J'ai jamais eu ces genres de trucs, heureusement pour l'instant. Et j'ai, parce que n'importe qui peut être amené à passer par là. Hein, donc, c'est pas du tout... c'est ça. Mais par contre, où je me suis sentie, où j'ai vu un peu le truc, c'est... Mais en fait, du coup, je me pose la question aussi. Je pense que c'est sur beaucoup... Il y a beaucoup de gens aussi qui il y a beaucoup de choses qui ressemblent à, c'est pour ça qu'il, justement, il dit que c'est très difficile à le diagnostiquer. Parce que je pense qu'il y a quand même des pôles communs, hein, parmi, différentes choses. Par exemple, le fait de travailler beaucoup par objectif et de, dans l'urgence, des trucs comme ça, sinon on procrastine. C'est un problème courant. Je pense que, d'ailleurs, c'est un problème courant de, je pense, le 90% des étudiants. S'il n'y a pas d'examen, s'il n'y a pas un rendu à donner. Mais après, c'est, en gros, moi, je pense que la différence est jusqu'au quel point ça te handicape ou ça te met des problèmes. Mais je pense que ça, par exemple, c'est plutôt une problématique commune, en fait. Si on n'a pas un objectif, si on n'a pas un rendu à faire, bah, on va avoir tendance à procrastiner.
Je sais pas, parce que, alors, en tant qu'étudiant, j'ai fait comme tout le monde, faire à l'arrache à la fin. Après, dans mon boulot, évidemment, j'ai des choses où bon, c'est un peu long, c'est un problème un peu complexe, donc je tourne autour, je fais d'autres tâches, etc. Donc il y a un aspect procrastination. Mais quand je parlais avec mon collègue là qui est TDAH, c'est littéralement son cerveau est bloqué, il ne peut pas faire la tâche tant que c'est pas vraiment devant lui et en l'occurrence que la deadline soit donnée par quelqu'un d'autre, quoi, qui le pousse. Et à ce moment-là, son cerveau se met en action et...
Oui, donc c'est différent, c'est ça, en fait.
Il y a vraiment un extrême, un peu, tu vois.
Oui, enfin, c'est ça, ça devient, spectre, c'est compliqué, hein, mais... en fait. C'est pas, ça va au-delà de ce qui est les seuillés, genre, est-ce que ça affecte vraiment ton travail? Et ça te complexifie par rapport à ça. Et après, il y avait d'autres choses. Pareil, l'hyperconcentration, de faire que pouvoir se concentrer longtemps en une tâche. Je pense que c'est aussi ce qu'on appelle d'être dans la zone aussi.
Ça peut arriver à tout le monde.
Voilà. Donc, c'est ça. C'est de, est-ce que t'es dans la zone à un point dans lequel pendant 3 jours d'un coup, tu manges pas? ou t'es dans la zone et ensuite, à un moment donné, tu fais autre chose ou donc voilà, moi je crois pas que moi, en tout cas, évidemment je lis et je me pose toujours des questions, un peu comme quand tu cherches par rapport à tes symptômes des maladies et tu vas sur Google et d'un coup t'as tous les trucs horribles et tu te dis ah c'est ça et tu te vois dans tout et en fait finalement c'était juste une grippe, c'était rien du tout,
c'est être hypochondriaque là.
Voilà, c'est je pense que il y a ça, mais en même temps je pense que c'est super important de s'informer des choses comme ça pour aussi comprendre les autres, en fait, se comprendre soi-même, parce que je pense que c'est pas binaire tout ça, en fait. C'est pas t'es comme ça ou t'es pas comme ça, ou t'as un truc ou t'as pas un truc. Je pense que les cerveaux humains est beaucoup beaucoup plus complexe que ça, et surtout ça permet aussi de comprendre que si quelqu'un te dit ah bah moi j'ai ça de machin, bah du coup de t'adapter toi, de t'intéresser à l'autre, en fait, t'intéresser à l'autre, okay. De dire ah bah peut-être que si je dois travailler avec cette personne là et je sais que si je lui mets pas un deadline, et ça va pas se faire et que c'est pas contre moi, c'est pas je lui demande un truc, et du coup on a tendance aussi à dire ah là là il le fait pas, il m'aime pas, ramener tout à nous, et du coup ça permet aussi de sortir un peu de soi et ramener tout sur l'autre, dans le sens où ok, comment je peux moi m'adapter à l'autre aussi, et pas prendre des trucs personnels, et collaborer les uns aux autres beaucoup mieux. Donc je pense que c'est important d'être au courant de ça et de sortir de l'estigme aussi. Parce que justement, ce qu'il raconte là sur la créativité ou toutes les choses bonnes que ça a, tout à la, disons que n'importe quoi, il a les revers de la monnaie. Il y a des trucs positifs, des trucs négatifs, mais les trucs positifs que ça a, ça, tu vas pas les trouver chez d'autres gens, en fait. Donc voilà, c'est ce qu'il disait. Ça a fait un lien aussi avec ce qu'il disait Edine sur se connaître et bien enlacer ta différence, bien la prendre dans tes bras, cette différence-là, et en faire une force.
Ouais. L'accepter, oui.
L'accepter, mais pour en faire une force, pas pour dire, bon, j'accepte, je suis comme ça, bon, bah, et, non, non, ok, comment je peux faire une force dessus?
Ouais.
C'est, ouais. Mais j'ai bien aimé son article, en fait, en tout cas.
Mmh. Ouais, ouais. Ok, eh bien, nous sommes quasi à la fin de cet épisode. Nous avons les conférences qui arrivent. Donc, il y a KubeCon la semaine prochaine à Paris, pour ceux qui ont la chance d'avoir un ticket. Pff, il y en a plein, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire sortir spécifiquement? Bon, bah, allez sur le site web.
Voilà.
Oui, bah, Devox, surtout, qui arrive en un mois. Celle-là, c'est la... Ça, ouais, ça va
si
venir.
Vous avez un ticket, Mixit la semaine d'après, Mixit, le 25-26 ouais. avril.
Et puis, il y a tellement, en fait.
Il y a Wine and Tech, là. Non, comment c'est déjà celle qui est à Lyon, là, que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas. Ou Tech, attends, où est-ce que c'est? Je crois que je l'ai vu dans la liste. Tech and Wine, un truc comme ça, je ne sais plus. Ouais, Tech and Wine 2024, 18 juin à Lyon.
Allez, parce que c'est des potes, hein. Le Riviera Dev, le 8 au 10 juillet, ouais. Il fera chaud, il fera beau. Le CFP, ben, il a fermé il y a quelques... Il y a un petit bug là, mais il a fermé il y a une dizaine de jours, mais du coup, il doit y avoir encore des places. Voilà, ben, écoutez, merci de nous avoir suivis. Et puis, le prochain épisode, une interview, comme nous a dit Katia. Et puis, entre-temps, bah, amusez-vous bien et profitez du beau temps qui arrive, en tout cas.
Parce que là, je...
Ouais, mais là, il refait beau, moi, tu vois. Je suis un peu décalé, je suis plus à l'ouest que toi. Donc, t'inquiète, il va faire beau dans quelques
minutes. D'accord, cool. Allez,
allez, à la bise à tout le monde.
Ciao, ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr. Tiens, juste vous laisse une petite seconde parce qu'il pleut des cordes et mon chien est dehors. Je vais voir s'il veut rentrer. Je reviens dans 30 secondes.
Ah, ok.
Bon, ben, moi, le chat, il est auprès du feu, près de la cheminée. Le toutou est rentré, Emmanuel, c'est bon ?
Ben, elle n'a pas voulu.
Ah, paf, d'accord.